Jean de Cutero de la West Coast Aveyronnaise. On est des PD, des gouines, des trans, des non-binaires et bien plus encore. On est aussi ton ou ta cousine, ton frère, ta grand-mère, ton voisin, ta garagiste, ton ou ta prof. On vit ici et on va pas bouger demain.
Il y en a beaucoup dans le coin en fait, des femmes lesbiennes agricultrices. Il y a du verger, il y a des maraîchères, fromagères, voilà. Il y a un nid.
On veut débroussailler les idées reçues en campagne, mais aussi laisser pousser nos herbes folles, faire de la place pour nos prairies, nos friches, nos épines et nos fleurs.
En 2024, notre radio associative s'est lancée dans un collectage de récits livrés par des lesbiennes, des gays et des personnes trans vivant à la campagne depuis belle lurette ou depuis peu. Dans cette série polyphonique, certains points de leurs histoires entrent en résonance, d'autres non, laissant entrevoir une pluralité de modèles qui leur ont manqué, et un florilège de ressources pour vivre pleinement son identité de sexe, de genre, son orientation sexuelle et ses choix amoureux dans des territoires ruraux. Ces récits, aujourd'hui d'actualité, viendront nourrir les archives LGBT encore trop rares, en général, et notamment en milieu rural. Épisode 1, retour à la terre dans la montagne noire, une rencontre avec Boris.
Bienvenue dans les années 50. On est dans une pièce de la ferme avec une belle tapisserie qui n'a pas bougé depuis très longtemps. Et c'est ici qu'ont vécu mes arrière-grands-parents. C'est ici qu'a vécu ma grand-mère les trois dernières années de sa vie. C'est l'histoire d'une ferme qui est partie de deux pièces et de quelques caves et qu'on est en train de remodeler à notre manière à nous et de retaper les bâtiments. Et c'est ici qu'on vit actuellement, en attendant que notre maison soit terminée. Alors je m'appelle Boris, j'ai 43 ans encore, et je suis originaire de la vallée du Touré, en Lavassy-d'Aurayroux. Et je suis revenu au pays en 2018 avec mon compagnon, pour un projet agricole. On est arrivé donc en avril 2018, ma grand-mère sortait de l'hôpital, devait partir en EHPAD et on lui a demandé si elle voulait bien nous accueillir. Donc on est arrivé chez elle, dans sa petite vie tranquille de veuve, de paysan de 90 ans et on est arrivé ici avec nos deux chiens et on s'est installé dans la maison. Donc on a pris soin d'elle comme elle a pris soin de nous. On a pas mal échangé, on a beaucoup parlé, et ça s'est fait de manière assez naturelle et plutôt fluide. Avec le temps, on peut dire que c'était quand même une chouette expérience, même si ça n'a pas été facile tous les jours, bien sûr. Mais je suis très fier aujourd'hui d'avoir pu vivre ce moment-là avec ma grand-mère. Alors j'ai grandi à Lavastide-Rouerroux, donc tout petit village du bout du Tarn. Je crois que c'était un village de 1000-1200 habitants à l'époque. Et je suis né dans une famille d'ouvriers, famille simple, plutôt pas très voyageuse, très famille. J'ai eu une enfance plutôt heureuse. Alors être gay, ça s'assumait pas forcément en ayant 14-15 ans. Je pense qu'aujourd'hui, le thème peut être abordé différemment, ça dépend aussi des familles. En tout cas, dans ma famille, je me sentais pas de leur annoncer à mon adolescence. Je ne me sentais pas légitime, assez en confiance avec moi-même. Je ne savais même pas encore si j'étais vraiment gay ou pas. Et à mes 19 ans, j'avais qu'une envie, c'était partir. Et voilà, je suis parti en me disant que jamais de la vie, je ne reviendrai ici. Et c'est quand je suis arrivé à Toulouse que je me suis rendu compte qu'effectivement, j'étais bel et bien gay. Donc c'est en partant à la ville que j'ai pu être loin de ma famille et que j'ai pu me rendre compte que oui, effectivement, il n'y avait pas de retour en arrière possible. Dans une vie hétéronormée. Et oui, il a fallu que je vive ma vie en ville, à Toulouse, à Londres, à Barcelone. effectivement, je suis allé dans des bars gays. Et c'est pas forcément le milieu qui me correspond, mais je peux rencontrer des personnes et échanger et me rendre compte que oui, on peut être gay effectivement et vivre pleinement son homosexualité sans passer des soirées dans des bars gays ou vivre dans une communauté gay.
Et quand vous étiez ado, vous en parliez autour de vous, avec, vous aviez des bons potes avec qui, à qui le déposer ou pas ?
J'ai assumé pour la première fois d'être homo avec mon ex-belle-sœur, j'avais 19 ans. J'étais déjà parti du village et je lui ai annoncé après, ouais. 19 ans, je sais plus quel âge. Oh, non, j'avais peut-être 18 ans quand je lui ai dit elle. C'était juste avant que je parte. C'était terrible. Alors que c'était ma meilleure amie, ça a été quand même terrible de devoir l'annoncer, quoi. Elle pensait que j'avais un cancer, alors quand je lui ai dit que j'étais homo, elle me dit « Ah, mais c'est tout c'est que ça !»
Et vos parents ?
Mes parents l'ont su quand j'avais 25 ans. Je rentrais de Londres, je partais à Barcelone et je leur ai dit que j'avais un copain. Ça a été un coup dur pour eux, parce que je pense qu'ils ont ils rejetaient ça, alors que je pense que dans le fond, ils savaient très bien. Mais ça s'est très bien passé et aujourd'hui, ils s'entendent très bien avec leur gendre. C'est plus une question, et je me posais même la question avant de venir habiter ici, si ça allait poser problème au niveau de mes parents, du fait de devoir assumer que leur fils gay vienne vivre avec son compagnon à la campagne. Et puis en fait, pas du tout. Ça allait de soi. Et maintenant, ils parlent du copain de leur fils quand ils parlent de Yannick, quoi. C'est à mes 30 ans, en faisant le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne, que je me suis rendu compte que j'avais besoin de, pas forcément de revenir ici, mais en tout cas besoin de ruralité et de vivre à la campagne, là où j'ai grandi. La ville est très chouette en soi, mais il manquait l'essentiel pour moi. La simplicité du quotidien, de vivre les choses, je ne sais pas comment expliquer. Aujourd'hui, je me sens à ma place parce que je suis sur des terres familiales et j'ai un projet que mes aïeux ont commencé. Et c'est un peu la continuité de tout ça. Donc après, forcément, derrière moi, il n'y aura pas de descendance, en tout cas de mon côté. Mais ces terres ont été cultivées par mes aïeux depuis plusieurs générations. Et il a fallu quelques années ici pour que je me rende compte effectivement de l'importance de tout ça, ouais. Et aujourd'hui, je me sens à ma place. T'as vu Yannick ?
Ah ouais, il est derrière, là.
Il plante des piquets, là ?
Ouais, je lui ai demandé s'il avait besoin, il m'a dit non, du jeu de bruit.
Oh !
Profite, il m'a dit.
Il dira pas non si tu veux planter deux ou trois piquets, hein.
S'il me donne la masse, je le fais.
Yannick, tu m'as appelé ?
Est-ce que tu veux faire la clôture devant les noisetiers ou derrière les noisetiers ?
Ben, la question, c'est est-ce qu'on garde un accès pour le tracteur ou pas ? Ou pas ? Avec mon compagnon, on s'est rencontrés sur Internet. Parce qu'autant lui que moi, on n'est pas du tout du milieu, c'est-à-dire qu'on ne sort pas dans les bars ou les restaurants gays. Et on s'est rencontrés grâce à un site Internet qui nous a permis de se rendre compte, bah, autant que lui que moi, si on ne s'était pas rencontrés par ce milieu-là, on ne se serait peut-être jamais rencontrés. À l'époque, j'étais à Montpellier, à côté de Montpellier. En saison, j'avais passé mon BPREA en maraîchage bio, déjà à Brenz. Et je faisais une saison à Montpellier, donc lui venait passer 2-3 jours à la mer et on s'est rencontrés comme ça. Je ramassais de la roquette sauvage et il a débarqué. Peut-être se mettre à 2 mètres des noisetiers pour être sûr que une fois que les noisetiers seront grands, qu'ils ne gênent pas.
Ah oui, il faut les tailler.
Ouais, de toute façon, il faut les tailler. Alors le projet d'installation commune, ça a été discuté bien sûr depuis le début, parce que moi j'avais terminé ma formation, j'avais déjà le projet de m'installer ici, de retaper la petite maison en pierre qui est au bout du hameau. Et étonnamment, Yannick est infirmier de métier, et avant de faire son école d'infirmier, il devait faire une école agricole également, pour se former à l'agriculture. Donc pour lui, ça a été comme une deuxième opportunité de se lancer là-dedans. Et il est venu voir, parce que moi je connaissais la ferme. Et voilà, ça a plutôt accroché, donc on s'est dit pourquoi pas, on tente. Alors Yannick a gardé son métier d'infirmier en libéral, donc il travaillait à la maison de santé. Et ça se passe très très bien et ça lui permet d'avoir, on va dire, pour nous deux, d'avoir un vrai salaire et de compléter le salaire agricole. Mais bien sûr qu'il est très présent sur la ferme et il y a toujours quelque chose à faire sur la ferme. Donc entre le travail au champ et la construction de la maison, et on rénove des hangars, on coupe du bois, voilà. La vie à la ferme, quoi. On ne s'ennuie pas vraiment, on va dire. Alors c'est assez rigolo parce que quand on est arrivé, les gens étaient déjà au courant pour nous. Donc les gens savaient qu'il y avait un couple d'homo qui s'installait ici. Et bon, passé un certain âge, on ne pense pas au jugement ou à quoi que ce soit, parce que nous, on vit notre vie, quoi. Enfin, pour nous, être gay à la campagne, ce n'est pas un sujet, au final. C'est être soi. Et bon, c'est possible que ça ne plaise pas à certaines personnes. On n'a pas eu de retour comme quoi ça posait problème. C'est possible qu'il y ait des gens qui ne veulent pas nous parler. Et ça, en tout cas, le problème ne vient pas de nous. J'ai jamais ressenti de mépris vis-à-vis des habitants. En tout cas, pas directement, comme je te dis. Il y a peut-être des personnes qui parlent mal de nous, mais la question ne se pose même pas pour moi, en fait. Et je ne sais pas. J'ai pas envie de savoir non plus. Parce que moi, dans l'idée, j'aime pas juger les gens, donc j'ai pas envie que les gens me jugent. C'est un peu pareil pour tout le monde, j'imagine. Mais on vit notre vie, on est intégré, on connaît tout le monde. On s'est même marié l'année dernière à la mairie du village. Donc c'était quelque chose d'assez fort. Je pensais pas me marier un jour, et puis finalement, ça s'est fait. L'achat en commun, ça va faire 10 ans qu'on est ensemble bientôt, et ouais, c'est un peu la confirmation de notre amour. Je suis pas un grand romantique du tout, du tout. Mais ça a confirmé quelque chose. Ouais. La question se pose même pas, en fait.
Mais est-ce qu'en public, consciemment ou inconsciemment, vous avez une pudeur ou une vigilance plus que peut-être un couple hétéro ?
On n'a pas vraiment de pudeur, mais ce n'est pas quelque chose qu'on affiche au quotidien non plus. Ça n'empêche pas que si on veut se faire une marque d'affection en public, on se la fait, comme se le ferait un couple hétérosexuel. Enfin, je sais pas, je me dis en 2024... Il n'y a pas de raison de se cacher de l'amour qu'on porte à quelqu'un. Et tous nos clients sur les marchés savent qu'on est en couple. Certaines nous prennent pour des frères, des fois. C'est assez troublant. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on cache et qu'on n'a jamais caché. L'homophobie est présente, ça c'est sûr. On en entend parler, on s'en rend compte. Après, nous... Si on ne regarde pas les médias, on ne s'en rend pas compte, parce qu'on ne vit pas dans cette réalité-là. On vit dans notre petit coin de campagne, on vit local, et de la part de nos amis, dont très peu sont homosexuels, on va dire, très très peu même, c'est pas quelque chose qu'on ressent. Mais oui, effectivement, on peut dire qu'il y a quelque chose de latent, comme si rien n'est gagné, quoi.
Vous n'avez pas du tout d'amis qui sont dans la communauté LGBT ?
Pas ici, non. Une personne. Une personne, c'est tout. Mais c'est pas. Il n'y a pas de bar gay. Il n'y a pas de bar gay par chez nous. Ah, on vit avec nos amis hétérosexuels et on va dire qu'on est, les potes pédés, quoi. Tout simplement. Mais non, c'est pas un sujet.
Et est-ce que dans votre chemin de vie, dans votre construction identitaire, il y a des moments où vous avez eu besoin d'avoir des lectures ou de regarder d'avoir des références culturelles en lien avec ça?
J'ai jamais eu besoin d'avoir de références avec le milieu gay. En tout cas, comme je vous disais, j'ai quand même vu par moi-même ce que c'était la communauté gay. Bon, je pense à Londres, j'ai vécu un an à Londres. Effectivement, quand tu vas dans les bars gays à Londres, tout est assez extraverti, on va dire, pour un campagnard. C'est pleinement assumé, mais je ne m'identifie pas vraiment à cette communauté-là, parce que pour moi, être gay, c'est un état, mais c'est pas je ne suis pas dans le militantisme, si tu veux. C'est pas quelque chose que j'ai besoin d'affirmer au monde entier. J'ai juste besoin d'être moi, et c'est déjà pas mal. Je pense que si à partir d'un moment, t'es en paix avec toi-même, dans ta vie, le sujet de l'homosexualité ne devrait pas poser de questions. Enfin, en tout cas, à mon niveau, ça a été le cas. Et c'est pas ça qui doit t'empêcher de faire quoi que ce soit. Si le problème existe, il vient pas de nous, il vient des personnes qui n'acceptent pas ça au final. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est sûr que je pense pas que ce soit quelque chose qui soit acquis, étant donné les montées des extrêmes dans notre pays et même d'ailleurs partout en Europe et ailleurs. Le sujet sera forcément peut-être toujours mis sur la table, mais si ça t'empêche pas de vivre pleinement ton homosexualité dans ta vie, quoi. Et tes projets ne sont pas forcément en lien avec ton homosexualité, donc il n'y a pas de raison que ça vienne empiéter sur ta vie future. Alors en 2024, être homo au fin fond de la campagne n'empêche pas de rencontrer du monde grâce au réseau, au site de rencontres. Moi, de mon côté, je suis heureux en couple et je pense qu'on va l'être pour longtemps encore. Parce qu'on a encore plein de projets en commun et le mariage a fait que confirmer notre amour. Mais c'est entièrement possible d'être gay et de vivre à la campagne, quoi. En aucun cas, ça pose problème. Après, les trajectoires de vie de chacun peuvent être variées et c'est tant mieux. Moi, j'ai eu besoin de passer par la ville pour me rendre compte de tout ça. Et je ne regrette pas. Au contraire, ça a été une partie de ma vie que j'ai beaucoup appréciée. Mais voilà, passé un certain âge, peut-être que je vieillis. Je ne m'identifie pas vraiment à la communauté. On est tous des minorités si on cherche à chacune des personnes, quelque part. Il y a le petit, il y a le gay, il y a le gros, il y a le grand. On a tous nos spécificités. Pour moi, être gay, ça n'est qu'une parmi d'autres. En tout cas, j'en fais pas une question.
Et est-ce que vous pensez, est-ce que vous avez été adolescent à la Bastide de Rouerouc dans les années 90 à peu près? Est-ce que vous pensez qu'en 2024, être adolescent à la Bastide de Rouerouc, eh ben, c'est un peu plus simple d'assumer le fait d'être homo?
Je pense que depuis 20 ans, effectivement, les réseaux sociaux ont permis une ouverture au monde qu'on n'avait pas avant. J'ai grandi dans un village où l'offre culturelle n'était pas exceptionnelle, on n'avait pas de réseaux sociaux, on n'avait pas internet, on n'avait pas de téléphone portable. Donc effectivement, tu te sens seul quand t'es gamin à la campagne dans les années 80-90. Aujourd'hui, tu peux vivre dans un lieu isolé, même au-delà d'un petit village, tu peux vivre dans une ferme isolée, tu peux vivre en montagne, mais tu sais qu'il y a des gens comme toi, qui te ressemble ailleurs, chose dont moi j'avais pas conscience à l'époque. Donc tu peux très bien vivre en étant gay à la campagne aujourd'hui, je pense, ouais. Quand j'étais à Londres, en tout cas, ou même à Barcelone, je me sentais comme un campagnard qui découvre le monde urbain, on va dire la jungle urbaine, avec toute l'offre culturelle et sociale qu'on retrouve pas à la campagne. Mais je savais très bien, au fond de moi, que c'était pas quelque chose auquel je pourrais appartenir toute ma vie. Passer des journées entières dans les transports ou avoir du bruit en permanence, c'était pas quelque chose auquel je voulais m'identifier. Et je me rends compte maintenant ici qu'effectivement, je préfère la tranquillité de la campagne au brouhaha urbain.
L'isolement ne m'a jamais fait peur. Bien au contraire. Je me suis rendu compte que, en vivant en ville, je cherchais à être en permanence en contact avec les gens. Et en fait, j'avais ce besoin d'être ours parfois et de m'isoler. Et c'est pour ça que j'avais tendance à partir souvent en rando, en autonomie, pendant quelques jours seul. Et c'est là que je me sentais bien. Donc là, j'ai un peu les deux. Je suis seul pendant des jours, mais j'ai pas besoin de partir marcher.
Il s'est passé 25 ans entre le moment où je suis parti d'ici et le moment où je suis revenu. Étonnamment, pas grand-chose a changé et finalement, il y a quand même beaucoup de nouvelles personnes qui sont venues s'installer, des personnes qui sont parties. Les villages bougent aussi, on s'en rend peut-être moins compte, mais alors, on est sur un territoire très rural On est entouré de forêts, de lacs, de rivières, de vaches aussi. Et les hivers sont longs, les étés sont plutôt courts, encore que ça change un peu. Mais on est sur une densité de population qui est assez faible. Et l'isolement ne me fait pas peur de mon côté. Pour certaines personnes, c'est peut-être plus compliqué, mais finalement, on n'est pas si loin de la mer, on n'est pas si loin de la ville, on n'est pas si loin de l'Espagne. Et les villages... Les villages sont traversés par une nationale qui fait l'axe Castres-Béziers, qui pour beaucoup de Tarnais notamment, c'est la route de la mer. Et c'est un pays où les gens n'aiment pas s'arrêter. Mais si on prend le temps de s'échapper un peu, de quitter cette route, ben, un peu comme dans la vie, hein, on sort des sentiers battus pour aller explorer ailleurs, on se rend compte que c'est beaucoup plus beau que ce qu'on pense. Et il faut sortir des sentiers battus justement pour voir tout ça. Alors, au niveau culturel, quand on vient de la ville, qu'on a passé 15 ans en ville et qu'on se rend compte de l'offre culturelle, effectivement, on se dit qu'il y a pas mal de choses à faire, même si une offre culturelle existe et il faut aller la voir aussi. C'est sûr qu'on n'a pas des grands musées, on n'a pas des grands artistes qui viennent exposer. On a quand même une petite offre culturelle, mais on a quand même des choses à créer et c'est à nous aussi, en faisant partie de cette population, d'apporter aussi tout ça. On a notre rôle à jouer dans la culture à la campagne. On a une salle dans la vallée qui fait la part belle au spectacle. En ce moment, on a la chance d'avoir le festival du documentaire à la Bastide d'Aurérousse, chaque année au mois d'octobre, avec une offre incroyable de films documentaires sélectionnés par un comité de sélection, qui fait venir du monde de la France entière, mine de rien. On a une petite salle de... une ancienne gare qui a été retapée en salle de spectacle où on a des pièces de théâtre, des concerts. On a même eu un spectacle de drag queen. Et c'est assez rigolo, les Queen of the Valley. Je ne suis pas allé voir d'ailleurs, mais j'avoue, je serais curieux de voir ça. C'est des personnes qui se transforment et qui incarnent un personnage. Et autour de ce personnage, elles créent des chorégraphies, elles font du karaoké sur des chansons. Et il y a souvent des défilés, il y a des sketchs. C'est quelque chose d'assez exubérant, le drag, au final.
En jouant un peu avec les normes de genre.
Complètement, oui. Ah oui, tu te joues complètement des normes de genre. Et c'est d'autodérision à balle. C'est ça qui est assez rigolo dans le drag. Mais je trouve ça chouette de faire venir un peu ce qu'on connaît comme spectacle urbain à la campagne. Et apparemment, ça a fait carton plein. Donc, le drag, c'est quelque chose d'assez rigolo et pour avoir vu une fois un spectacle en Espagne, j'avoue avoir passé la soirée à rire énormément. C'est bien justement d'avoir l'intérêt d'avoir une offre diversifiée culturellement à la campagne, c'est ça aussi quoi.
Carottes, carottes, carottes. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de carottes cette année. J'ai jamais eu autant de carottes de ma vie.
Vous vendez où les produits de la ferme ?
On est sur le marché de la Bastide d'Aurérousse tous les jeudis matins et on fait également des foires un peu partout autour de chez nous. On fait peut-être une dizaine de foires, de grosses foires dans l'année. On fait également des marchés de producteurs dans la vallée. Donc on cultive local, on essaye de vendre également en local et on fait que de la vente directe.
On est assez autonome, peut-être qu'à terme l'idée ça serait peut-être d'embaucher, peut-être mi-temps. On a quand même des projets, on a toujours des projets à la campagne. L'idée c'est de développer, de travailler sur une cuisine pro et de développer des produits, des tartinables et des produits transformés. Donc peut-être qu'à terme, sur la partie production, on aura besoin d'un coup de main effectivement. Ouais. À voir. Là, je vais aller ramasser quelques légumes, dont des choux pour faire la soupe au fromage spécialité de Tarnaise. Et on a des choux magnifiques hein, cette saison.
Tu as des oignons doux ?
Ouais.
Ah, je veux bien des oignons.
Ils sont là, tu les prendras d'ici.
Ok, ça marche. Parfait.
Mais il fait beau.
Ouais, mais il fait chaud même.
Oh, c'est génial.
Très bien.
Alors.
un petit chou, un gros chou plutôt.
Constellation LGBT en ruralité, une série documentaire réalisée par Claire Cachecouche-Soucy avec un coup de main de Thomas Béranger, de Carla Caldera et le soutien de la DILCRA, une production de Air d'Otan. Merci à Boris, Yannick et Barbara. La musique, c'était Lickstick, Delicious, Dearborn, Petra et Meute. Rendez-vous dans le prochain épisode près de la rivière du Vior avec Naïs et Ju, membres des LBD, les Bonnes Débroussailleuses, un collectif aveyronnais qui s'active pour faire bouger les lignes et prendre soin des membres de la communauté.